météo.
La radio associative.
Quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on va vous parler un petit peu de la guerre sans faire de la géopolitique, hein, puisque on n'en est pas là encore. On pourrait en parler, parce qu'il y a eu quand même des émissions intéressantes, en particulier à la télévision sur la 5. C'est dans l'air, avec quelqu'un que j'apprécie toujours, moi, quelqu'un qui est d'obédience que Trotsky, je crois, comment il s'appelle
Je sais pas.
Moi, c'est pas grave, sans aucune importance. Alors bon, faut déjà dire que la guerre là-bas, ça dure depuis 8-9 ans. Depuis 2013, 2014.
C'est ça. Ah. Oui, c'est pas une situation. Oui, on va pas faire de géopolitique parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Puis on n'a pas travaillé, en fait. Il nous faudrait beaucoup de temps pour pouvoir expliciter parce qu'il faut prendre son temps. C'est une situation qui trouve son origine et ses conditions dans des circonstances et dans des longues temporalités historiques. Puisque l'Ukraine, c'est pas rien, hein, non plus. La Russie, c'est pas rien. Nous, ce qu'on peut dire, c'est affirmer quelques positions de principe sur lesquels là, par contre, on est sûr de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'avec les peuples, toujours, contre les États, toujours. Ça, c'est sûr.
Tout à fait.
Notre première solidarité, elle va à tous les peuples, même le peuple russe, puisque il y a encore eu des manifestations aujourd'hui avec un peu plus de 3000 interpellations à Saint-Pétersbourg, à Kaliningrad, à Ekaterinegrad, à Moscou. Donc ça montre bien que les gens ne subissent pas, faut quand même souligner ça, le peuple russe, une partie du peuple russe bien sûr, n'est pas derrière Poutine et ne veut absolument pas s'enfoncer dans cette...
En plus il faut vraiment avoir en vouloir pour descendre dans la rue en Russie aujourd'hui.
Tout à fait.
Hein, puisque ça, à chaque fois ça peut déboucher sur une
arrestation, dans des conditions
qui
dures.
Qui risque d'être longue d'ailleurs, plus que ça, enfin bon... C'est quand même oui.
Ouais, d'ailleurs, on entend d'ailleurs assez peu les forces, on va dire libérales et démocrates. Alors en général, on nous fait des émissions quand il y a un opposant qui est assez célèbre, souvent d'ailleurs qui va dans le sens du courant, soit il est pro-européen, etc. Mais bon là, c'est une vraie mobilisation populaire, quoi. Et on en entend. pas vraiment parlé. En tous les cas, il n'y a pas de signe de solidarité. Ça, c'est sûr qu'il va falloir être attentif et manifester aussi devant les ambassades de Russie pour que l'ensemble des gens qui sont interpellés puissent être relâchés. Évidemment, notre solidarité, elle va en vis-à-vis de la population ukrainienne, qui va en prendre plein la gueule, qui en prend d'ailleurs plein la gueule depuis une quinzaine d'années avec tous les bouleversements qu'il y a à la tête de ce pays, la corruption énorme de ses dirigeants, qu'ils soient en place ou d'opposition. Hein, rappelez-vous, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, peu plus que les commentateurs Timoshenko et compagnie, ils sont en tôle, hein, et puis y a de la corruption derrière. La révolution orange également. On ne revient pas là-dessus. Là-dessus, bien sûr, évidemment, une population qui va aussi se retrouver dans des conditions de vie pour ceux qui vont rester et qui vont se battre assez difficiles. Et puis pour ceux qui vont fuir dans des conditions aussi assez effroyables. On parle déjà de 500 000 personnes en Pologne.
Qui sont passées en Pologne.
Ouais, tout à fait. Plus 100, 150 à 200 000 en Roumanie. Alors pour le moment, l'accueil se passe vraiment, vraiment bien. On assiste à des mouvements de solidarité. Quelles leçons d'ailleurs pour nous, les Occidentaux, qui sommes, on va dire quand même, honnêtement, un peu plus aisés que les populations polonaises ou les populations roumaines. On voit que là, l'accueil se fait vraiment de manière populaire et dans les conditions, on l'espère, les meilleures, mais en tous les cas, on voit des gens qui ouvrent leurs portes, qui viennent chercher les gens à la frontière. Bon, évidemment, il y a la solidarité contre l'ennemi traditionnel, héréditaire russe, hein, bien sûr, il ne faut pas être naïf, il y a aussi des instrumentalisations politiques, mais il y a une vraie démarche populaire de solidarité là-dessus. Alors nous, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, évidemment, quand on a un record de dépenses militaires qui est battu tous les ans depuis bientôt 10 ans, à un moment, il faut que ça serve. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous, on n'a jamais cru à cette espèce de fable qu'on raconte aux adultes que l'Europe, c'est la paix. Hein. Vous savez, c'est grâce à l'Europe qu'on n'a pas la guerre. Oui, c'est bon. Ça fait quand même quelques décennies que tous les 10 ans, il y a une guerre en Europe. Hein. Que ce soit la Yougoslavie, le Kosovo... j'en passe, et des meilleurs, le Karabakh, etc., etc. Alors bien sûr, quand ça se passe du côté des Balkans, hein, puisque ces gens-là, évidemment, ne savent pas vivre, ça nous intéresse pas trop, mais on oublie souvent que l'histoire, c'est tragique, que non, on n'est pas sorti de l'histoire, et que ça nous revient toujours comme un boomerang dans la gueule, même si on veut pas s'en occuper. Comment ne pas voir que depuis à la fois la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Empire soviétique, il y avait des questions qui avaient été posées qui n'ont jamais été réglées. On ne peut pas évidemment sortir d'un empire tel que celui que fut l'URSS comme ça sans avoir au moins des conférences internationales ou au moins des processus de légitimation. Alors là, on a eu l'impression que ça avait été vraiment dealé entre deux cafés et que ça avait été distribué comme ça. Et puis, évidemment, cette question de la guerre froide qui s'est transformée en un espèce de monde multipolaire, ça aussi c'est une fable que nous on peut ne pas croire, puisqu'on sait très bien que là-dedans les puissances impérialistes, alors elles peuvent être de nature différente, mais elles sont clairement identifiées et identifiables, c'est la Russie, les États-Unis et la Chine, avec effectivement un peu l'Inde, et que à un moment ou un autre, notamment quand arrivent les moments de crise, ces impérialismes-là, ils n'hésitent pas à faire la guerre. Alors, comme disait un vieux dicton, la guerre, c'est des gens qui se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Et eux, les gens qui nous dirigent, ils se connaissent très très bien, puisqu'ils passent du temps au téléphone et qu'ils passent du temps à faire des espèces de palabres. À la fin, effectivement, c'est toujours.
Quoique, en France, je pense que le pouvoir actuel est en train de se rendre compte que c'est pas la peine de se frotter les mains par rapport aux décisions de boycott qu'on prend au niveau de la Russie, que ce soit à tous les niveaux que ce soit, puisque de toute façon, ça aura des retombées en France.
Tout à fait.
Et ça, ça a déjà des retombées au niveau du prix, par exemple, du blé. Mm-hmm. Ça va avoir des retombées aussi au niveau, bien sûr, du gaz, d'électricité, etc. Et donc, faut pas du tout se croire que ça y est, on va faire, plier l'impérialisme russe, parce que pour nous, c'est un impérialisme, hein, mm-hmm. impérialisme russe, en leur supprimant un certain nombre de choses, en particulier leur fric. Au niveau personnel, ça, ils en ont, hein. C'est incroyable.
Je pense même qu'il est fortement imaginable qu'ils aient pris leur disposition auparavant.
C'est pas... évident, je pense. Mmh. Ouais.
Et effectivement, parce que eux, au moins, ils avaient l'intelligence d'avoir un plan et d'assumer la conflictualité. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir l'impréparation, justement, des différents pays d'Europe qui visiblement n'avaient pas envisagé cette solution.
Personne n'y croyait, je crois.
Bah, quand tu fais de la diplomatie, t'envisages tous les cas de figure, ouais. quand même, parce que sinon tu te retrouves complètement couillonné, quoi.
Notre camarade, n'exagère rien. Macron s'est fait rouler dans la farine par Poutine de manière assez incroyable.
Alors, est-ce que il y a cru ou est-ce que c'était de l'agitation en vertu de, faut rappeler quand même qu'il a encore une semaine pour se présenter à l'élection présidentielle, sinon vite. Au 4 mars, c'est fichu. Quand même incroyable, quand même. L'état de démocratie, qu'est-ce que c'est que ce régime politique où le mec va se dépolariser le 3 pour le 4. Enfin, c'est complètement... On marche... Enfin, c'est vraiment ouais, c'est un pure, système
mais
qui
c'est,
est...
Mais c'est purement formel. Hein,
ouais,
on
ouais,
sait
ouais. C'est au niveau de la forme, comme tu dis, c'est quand même un système qui est à bout de souffle, quoi. Alors oui, ça a communiqué fort sur les mesures de rétention économique. Ouais, ça c'est sûr que c'est plutôt le peuple russe qui risque d'en souffrir.
Et puis les peuples aussi européens.
Ça c'est clair. Et nous aussi, vous pouvez commencer à faire vos réserves d'essence parce que ça risque de monter. Idem, on ne sait jamais s'il y avait la possibilité d'une utilisation du gaz pour pouvoir faire plier tout ça, s'en servir comme argument. Ce qui paraît quand même le plus remarquable, c'est et ça malheureusement on n'a pas trop d'éléments donc on va juste le souligner comme ça, c'est la transformation complète de la politique européenne en matière d'armes, puisque auparavant officiellement l'Union européenne ne vendait pas d'armes à des pays en conflit, en guerre, je dis officiellement
ouais.
Mais parce que là, il y a des consortiums européens d'armes. Bon, on n'a pas été creusé en dessous ce qui se passait, mais officiellement, ça ne se faisait pas. Et là, ils viennent donc de le décider. Et avec chose là, par contre, historique et incroyable, l'Allemagne, qui était un pays résolument pacifiste dans sa politique étrangère, vient de décider donc de subventionner et de donner de l'argent pour pouvoir vendre des armes à l'Ukraine et d'augmenter son budget militaire de 2% du PIB chaque année.
Rappelle-moi qui c'est qui est au pouvoir en Allemagne.
Ce sont les sociaux-démocrates, le SPD.
Et ça a toujours été, hein, je veux dire, on peut prendre l'histoire a toujours prouvé que les sociaux-démocrates étaient toujours du côté de la guerre.
Oui, hein? Mais lorsque les sociaux-démocrates votent des crédits de guerre, en général, ça se passe mal, surtout quand ils sont allemands. Il faut quand même être attentif à ça, mais c'est quand même un revirement assez intéressant. Et une fois de plus, soulignons-le, qui s'est fait de l'ordre de 48 heures sans débat parlementaire et sans évidemment consultation de la population concernée, quoi. Donc on trouve des éléments assez flippants par rapport à ce qu'on peut comprendre, ouais. Et puis nous on n'a pas de solution à apporter, si utiliser les armes pour massacrer vos dirigeants russes et puis après massacrer les dirigeants ukrainiens, puis après vous vous arrangerez entre vous pour savoir ce que vous voulez faire. Là, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Mais ce qui va être important, c'est effectivement soutenir tous ceux qui sont contre la guerre dans les pays concernés. Ouais. Espérer que le conflit va être le plus rapide, le plus court possible pour éviter des enlisements. Et puis traiter la question des réfugiés avec le maximum de confort, d'accueil possible, ouais. Mais bon, voilà, pour le moment, ce sont les premiers les pays limitrophes qui s'en chargent. Et puis, je pense que dans les pays européens,
il y a un salaud, je ne sais plus quel, français cette fois-ci, qui a dit, mais moi, je suis pour que les Ukrainiens viennent en France. Ça nous fera de la main d'œuvre très bien, comment dire,
qualifiée,
ouais, etc. Ça nous changera. Voilà, c'est ce qu'a dit le mec, hein, carrément. Je ne me rappelle plus le nom de ce politicien.
Oui, bah c'est pas étonnant. En plus, il y en a certains qui parlent français, qui ont fait leurs études en France, donc ce ne sera que partie remise, quoi. Mais bon, enfin, entendre Darmanin de parler de réfugiés, c'est assez immonde quand même. Mais bon, voilà. Donc, on va s'écouter un peu de musique, puis on va parler de totalement autre chose, quoique.
Je ne trouve plus la musique.
Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais présenter vite fait. C'est pas grave si ça démarre sur mon propos. On va parler de logistique et de classe ouvrière. Puisque, en effet, on vous parle souvent de travailleurs, de travailleuses, de classe ouvrière, de prolétariat, et on les voit jamais et on n'entend jamais parler de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 30% de la population qui est comptabilisée par l'INSEE sous le qualificatif ouvrier. Et parmi ces ouvriers, il y en a plus de 1 sur 10, 13% à peu près, qui travaillent dans la logistique. Alors la logistique, c'est quoi? C'est pas seulement le transport, hein, les routiers, les camionneurs, etc. C'est pas seulement les services de messagerie, c'est aussi toute l'infrastructure, c'est-à-dire les entrepôts, les stocks, le magasinage, etc., qui sert à cette économie de flux qui est en effet au cœur du capitalisme et des échanges marchands. Alors ça va évidemment de ce qu'on peut acheter sur Amazon avec tout ce qui est commerce en ligne, mais aussi et surtout tout ce qu'il y a dans les magasins et dans les grandes surfaces. Évidemment, aujourd'hui, vous avez tout de suite en tête ces immenses zones d'activité commerciale, ces hangars qui sont pris, et il y a de moins en moins, comme on dit, de petits commerçants, et même de toute façon, ces petits commerçants, ils doivent être achalandés, approvisionnés régulièrement par toute cette infrastructure logistique. Et donc, la logistique, c'est devenu vraiment un des cœurs du capitalisme, non seulement par rapport à l'emploi, mais aussi par rapport à son organisation. Et depuis quelques années, on a donc une explosion de cette logistique et une nouvelle forme de gestion et de travail qui est qu'on essaye de fonctionner le plus possible à flux tendu. Alors on l'avait dans les usines, ça voulait dire pas de stock, une organisation du travail sous type tayloriste, puis ensuite toyotisme, ça vous avez dans la tête les lignes de production de bagnoles par exemple, quelque chose de très fort, et qu'on retrouve aujourd'hui cette forme de travail à l'intérieur de ces grands entrepôts, le plus beau étant évidemment, je reprends cet exemple, Amazon ouais. et toutes ces choses. Et en fait, cette forme de travail, non seulement à l'intérieur des paysages, elle va avoir un impact, mais elle va aussi avoir un impact à l'intérieur des relations du travail, elle va avoir un impact sur les corps, elle va avoir un impact sur les esprits. Et d'ailleurs, à noter que ces entrepôts, notamment à cause de la place, vont s'établir souvent dans des régions périurbaines, pas dans les grandes villes, mais à l'extérieur de ces grandes villes, voire dans des régions quasiment, enfin dans des secteurs quasiment semi-ruraux, quoi. Alors, ça implique évidemment une concentration de l'emploi, faut prendre sa bagnole, etc., etc. Et pour parler de tout ça, on va utiliser les propos d'un sociologue qui s'appelle David Gaborio, qui travaille justement sur la logistique et qui a lui-même été s'employer à l'intérieur et qui propose justement quelques analyses de cette forme de travail et de ce que ça provoque. David Gaborio est aussi intéressant puisqu'il a fait partie d'un collectif qui s'appelle, on parle d'ailleurs, Plateforme d'enquête militante, qui se proposait justement d'aller d'aller faire des enquêtes sur le terrain et de les faire remonter pour que justement ceux qui s'intéressent à toutes ces questions dans une point de vue social et dans un point de vue de comprendre pour pouvoir transformer puissent se saisir des travaux. Donc on va l'entendre. Alors je sais pas où on en est, Camille. Est-ce que tu as retrouvé la ZIC? Non.
Ouais. Après la première partie.
D'accord, ok. Alors on va d'abord écouter la première partie, puis on aura l'occasion de revenir là-dessus pour éventuellement apporter des précisions et commenter. Alors on y va pour la première partie de l'entretien de David.
Du coup, ce qui peut être bien pour commencer, c'est de faire un petit historique de ce que c'est la logistique, comment c'est apparu, puis après on peut rentrer concrètement dans le détail de l'entrepôt et comment ça fonctionne dans l'entrepôt. Mais tu l'as bien dit, c'est un rouage essentiel du capitalisme, c'est une infrastructure. C'est vraiment le terme à retenir. Une infrastructure, ça veut dire que sans ça, le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui ne serait pas possible. Et ça, il y a différentes manières de le voir. Si on regarde un peu comment c'est apparu en France vraiment fortement la logistique, on voit bien qu'à chaque fois, c'est des étapes essentielles du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Alors, j'aurais pu revenir, les spécialistes, les experts de la logistique, ils disent que c'est apparu avec la Grèce antique. Non, en fait, la logistique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est à partir des années 80, 70-80. On commence à avoir des énormes entrepôts disséminés partout sur le territoire qui livrent les magasins. Donc, à chaque fois, le schéma, pour expliquer très simplement ce que tu disais, l'éparpillement des entrepôts, c'est qu'on a des usines qui fabriquent des objets, qui les envoient dans des entrepôts, et les entrepôts renvoient les objets vers des lieux de consommation ou de plus en plus chez les particuliers. Ça, quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais tous les objets qu'on consomme aujourd'hui par le biais de la grande distribution passent par des entrepôts. C'est pas quelques objets, hein. Il n'y a jamais une palette de Coca-Cola qui sort de l'usine Coca-Cola pour aller vers un magasin. Systématiquement, ça passe par une plateforme logistique, et ça, c'est valable pour plus de 90% des produits qu'on consomme aujourd'hui. Donc c'est pas quelques fois ça passe par là, tout passe par là, absolument tout. Avec parfois des trucs aberrants du coup. Alors, je vais venir à l'historique après, là, je suis en train de faire des parenthèses, mais des trucs aberrants, c'est-à-dire que vous fabriquez du savon de Marseille à Marseille, pour être vendu dans un supermarché de Marseille, c'est pas du tout un problème du point de vue logistique, qu'entre-temps il passe par une plateforme logistique qui va être située à Orléans. Ça, c'est tout à fait rationnel du point de vue de la logistique aujourd'hui. Donc, on fabrique un endroit, on le transporte très loin et ça revient au même endroit. L'intérêt, c'est de concentrer les flux. Et c'est pour ça que je dis bien que tout passe par là. C'est-à-dire, même si c'est juste à côté, ça passera quand même par une plateforme logistique parce qu'au final, c'est plus rentable. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Donc, comme je disais, c'est une infrastructure, donc c'est stratégique et qu'il faut regarder un peu l'émergence du secteur pour comprendre pourquoi, à chaque étape, c'est quelque chose de stratégique. J'ai une première chose qui a fait apparaître des très gros entrepôts, type Amazon. En fait, à chaque fois, je vais essayer de faire ça, de montrer que Amazon, c'est un super exemple. C'est le truc qui saute aux yeux, mais c'est l'arbre qui cache l'énorme forêt derrière, qui est la logistique. Donc, tout ce que je dirais, c'est un peu valable pour Amazon. Mais avant les gros entrepôts Amazon, il y avait les gros entrepôts de la grande distribution. C'est ça, les premiers grands entrepôts qui apparaissent en France, c'est des entrepôts de Leclerc, Carrefour, Super U, ces grosses boîtes qu'on connaît tous. Et en fait, le fait d'avoir des entrepôts pour stocker les produits, c'est essentiel. À partir du moment où des grandes entreprises décident d'acheter en gros des produits pour les vendre à pas cher dans des supermarchés, donc là on a un modèle énorme qui se développe, qui aujourd'hui marque notre quotidien à nous tous, hein. À partir de ce moment-là, il faut des entrepôts. Ça ne marche pas sans entrepôts. On ne peut pas acheter en masse et après diffuser en masse sans passer par une plateforme logistique. Donc c'est un rouage essentiel de la grande distribution. Après, il y a une autre étape qui fait exploser la logistique, qui est un peu moins connue, je la ferai après celle-ci, qui est plutôt celle-ci, elle est très connue. C'est le phénomène de la délocalisation. À partir du moment où on commence à produire des objets quelconques très loin, en Asie d'abord, et puis un peu partout après, ou même dans l'Est de l'Europe, à partir du moment où on commence à utiliser des pays à bas coût pour produire, on a besoin d'une infrastructure logistique pour amener ces produits. Où est-ce qu'ils sont vendus? Est-ce qu'ils ont beau être fabriqués en Chine ou ailleurs, ils sont toujours vendus chez nous principalement, quoi. Donc non seulement on en a besoin, mais en fait ça ne marche pas si on n'a pas une infrastructure logistique extrêmement performante. Ça coûterait trop cher. Pour que ça soit possible, il faut que le transport ne coûte presque rien. Et pour ça, il faut une énorme infrastructure logistique avec des gens mal payés, avec tout ça, tout ce qu'on va expliquer après, ça découle de ça. Donc vraiment, l'internationalisation des marchés, la globalisation, elle repose aussi sur la logistique. Et ensuite, il y a un dernier phénomène, donc ça, c'est celui qui est moins connu, mais qui est très important. À partir des années 80, en France et partout dans le monde occidental, il y a un truc important qui se produit, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Avant, on avait des très grosses usines avec 10, 15, 20 000, des très gros groupes, 10, 15, 20 000 personnes au même endroit. Et à partir des années 80, tout commence à être découpé en petites unités. On a toujours des très gros groupes qui maîtrisent les marchés, hein, ça change pas. Par contre, ces très gros groupes, ils se découpent en plein de filiales, filiales qui appartiennent au groupe ou des fois pas au groupe, donc des fois c'est des sous-traitants, donc mais plein de réseaux de petites unités. Ça c'est, alors on pourrait se dire bon c'est juste un changement de l'économie, hein, mais ça a des impacts importants sur plein de choses. Par exemple, c'est quelque chose qui a très fortement déstructuré les collectifs de travail. On n'a plus la grosse usine avec ses 10 000 ouvriers qui sortent ensemble de l'usine, qui vont au bar, qui discutent et qui tout d'un coup se mettent en grève tous ensemble et ça bloque tout. On a plein de petites unités partout, tout est éclaté. Donc ça, c'est stratégiquement, c'était très fort pour le capitalisme de créer ça. Et pour faire ça, c'est pareil, il faut la logistique. Si on a 15 000 sous-traitants, qu'on fabrique un bout de pièce en endroit, un autre bout de pièce en endroit, qu'on assemble un bout de l'objet à un moment et qu'après on rassemble un autre bout ailleurs, tout ça, il faut transporter à chaque fois et pour ça, il faut la logistique. Et si vous regardez la fabrication d'un iPhone, c'est l'exemple type de ça qui est toujours cité. Il y a plus de 20 unités de production et d'entrepôt minimum qui sont utilisées pour chaque iPhone. C'est-à-dire que ça circule partout et qu'il faut que ça circule à pas cher. Donc tout ça, c'est pas possible sans la logistique. Donc je sais bien, ça a des effets politiques, c'est pas juste une transformation des économies. Ça met en concurrence la main-d'œuvre à l'échelle internationale. C'est grâce à ce type d'infrastructure, grâce entre guillemets, hein, mais qu'on peut mettre en concurrence un ouvrier en France avec un ouvrier à l'autre bout du monde. Ça éclate les collectifs de travail aussi, en éclatant les grandes entreprises. Et puis ça permet la massification des ventes de la grande distribution qui arrive à occuper tout l'espace grâce à ça, quoi. Donc c'est vraiment une infrastructure de tout ça. Et ça, c'est la première chose à remarquer, je trouve, de voir à quel point c'est important pour le capitalisme aujourd'hui. Et tout ça aussi, ça souligne une autre chose au final. Donc c'est un autre ensemble d'explications de première explication de c'est quoi la logistique et pourquoi c'est important, d'en parler. Tout ça, ça fait naître en France un nouveau monde ouvrier. Parce qu'en fait, on a tous entendu ces discours, les ouvriers c'est fini, on est en phase de désindustrialisation, tout ça, on a toujours entendu ça depuis les années 80. On sait un peu que c'est pas vrai, et une des manières d'expliquer que c'est pas vrai, c'est de regarder un peu la logistique. Et en fait, si on veut l'expliquer de manière très simple, et c'est même pas caricatural, hein, quand on a commencé à dire que les ouvriers avaient disparu en France, en fait, ils n'avaient pas disparu, ces ouvriers-là. Ils étaient juste rendus très loin. C'était les usines de production qu'on envoyait à l'extérieur. Donc déjà, dans sa tête, c'est important d'avoir ce réflexe-là quand on nous dit désindustrialisation, de dire non, en fait, c'est juste, on a envoyé ça dans des pays à bas coût. On envoie dans des pays à bas coût, et pour ramener le produit chez nous, on a besoin de logistique, et la logistique, c'est de la main-d'œuvre. Et l'entrepôt logistique qui permet d'amener le produit jusqu'au supermarché, lui, il n'est pas délocalisable. Lui, il est chez nous, il ne bougera pas. Et ce qui s'est passé, en fait, on le voit dans les statistiques de l'emploi, c'est qu'on a perdu une partie des emplois industriels classiques, d'ouvriers classiques, de l'automobile ou les gens qui fabriquaient des micro-ondes ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas disparu, hein, mais ça a quand même bien diminué. Et qu'en retour, il y a un nouveau monde ouvrier qui a émergé, ce qu'on appelle les ouvriers du tertiaire, qui ne fabriquent plus des produits dans des usines où on construit quelque chose, mais qui sont dans d'autres types d'économies. Donc dans la logistique, dans d'autres secteurs, hein, on aurait pu parler du tri des déchets, toute l'écologie par exemple, il y a tout un monde ouvrier qui est en train de naître par là. Et ça, c'est important d'avoir cette idée-là, qu'il y a encore des mondes ouvriers émergents en France, des trucs qui apparaissent quoi, et qui se renforcent. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres, dans les années 80, dans tout le monde ouvrier, si on regarde l'emploi ouvrier, il y a 8% des ouvriers qui travaillent dans la logistique. Aujourd'hui, il y en a plus de 15%. Ça, à l'échelle de l'emploi global, c'est des grosses évolutions, quoi. Ça veut dire que le monde ouvrier, il est de plus en plus logistique. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. Et une autre manière de le montrer aussi, c'est que dans ce secteur-là, si on regarde en termes d'emploi, quand je dis qu'il y a de plus en plus d'ouvriers, aujourd'hui, il y a 900 000 emplois. Dans la logistique, donc, ce n'est pas un petit secteur, 900 000 personnes. Mais ce qui est encore plus important, c'est de montrer que dans ces 900 000 emplois, en fait, il y a 80% d'ouvriers. Donc, c'est un énorme secteur dans lequel il y a 80% d'ouvriers. Donc on a encore des secteurs qui cartonnent, qui sont en plein développement, qui sont des secteurs hyper ouvriers, quoi. Donc quand on vous dit des industrialisations ou des choses comme ça, toi t'as dit on est encore dans une civilisation industrielle. Voilà, ça c'est un exemple pour le montrer. Tout ça a un peu changé, ça veut pas dire que les choses sont toujours pareilles, hein. C'est un monde ouvrier qui s'est transformé, mais qui a pas disparu. Ça s'est transformé. Et la transformation que moi j'ai essayé de montrer dans ce que j'ai fait dans un boulot de thèse, parce que ça vient de là l'enquête, c'est de montrer qu'on est passé d'une économie de la production, d'un monde ouvrier qui produisait, à une économie de la circulation. Je ne suis pas tout seul à le dire, il y a plein d'économistes et de sociologues qui disent ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, la circulation des matières, des biens et des matières, c'est devenu un enjeu stratégique du capitalisme. Et on peut en parler de manière très métaphorique comme ça, mais en fait, derrière tout ça, il y a des ouvriers. Et donc il y a des luttes à mener aussi dans les entrepôts, et ces luttes, elles ont un enjeu stratégique énorme pour le capitalisme.
some measure. Can you improve this place with the data that you gather? Hey, Mother Mercy, can your life improve forever? Is your fecundity a trammel or a treasure? Did you see your children cry when you left them at the station? Hey, moral soldier, you've got righteous proclamations and precious stones to fuel your pulpy conflagrations. And I wanna conquer the world, give all the idiots a brand new religion, put an end to poverty and cleanliness and toil, promote equality. Children, do away with their pollution and then I'll save the whales. We'll have peace on earth and global communion. I want to conquer the world. I want to conquer the world. I want to conquer the world. I want to conquer the world.
Bon, dans cette première partie, d'ailleurs je le dis, hein, qui est issue en fait d'une conférence qu'a donnée David à Lyon, dans la librairie La Griffe, hein, sur intitulée « Contre Amazon et son monde ». Et David, donc, qui est sociologue, comme il l'a dit, hein, qui a fait une thèse sur la logistique, intervenait là-dessus, puisqu'il y avait à ce moment-là une lutte contre la plantation d'un entrepôt d'Amazon.
Amazon, ouais.
Ce sont des phénomènes qui apparaissent depuis quelque temps. Et l'intérêt de l'intervention de David, c'est que on a souvent cette expression, hein, contre Amazon et son monde, mais que ce monde, en fait, et nous reprenons ça à notre compte en bon matérialiste, hein, c'est que en dernière instance, le capitalisme, c'est une forme d'exploitation des corps des hommes et des femmes et des travailleurs, et qu'en dernière instance, c'est ça qui forme le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que effectivement, quand on a un système économique qui est basé n'importe quoi sur le charbon, la première révolution industrielle, ça va se passer dans les mines, ça va créer des formes d'exploitation, ça va aussi créer des formes de culture, des formes de résistance, des formes de mobilisation, mais ça va aussi créer, par exemple, des formes d'habitation, les corons, ça va créer des formes de langage. Ça va créer des habitudes culturelles, la musique, l'argot, le bar, le bistrot, etc., etc. Et donc, toute cette nouvelle exploitation, comme la décrivait David, qui est apparue depuis les années 90, de l'entrepôt, ça crée aussi des choses. Alors ça se met du temps à se poser, hein, mais c'est aussi des choses qui commencent à apparaître. Le rapport individuel au travail, le rapport individuel à la hiérarchie, et des choses en fait où on voit des choses nouvelles, comme on va avoir sur le picking, par exemple. Le picking, c'est le fait d'aller chercher des comment dire, des produits avec des instructions dans un casque données par une commande vocale, une commande numérique. Ça va créer aussi des nouvelles formes de relation à la marchandise, puisque nous, on va avoir une invisibilisation de ce travail. On va commander ça sur Internet pour être livré le plus rapidement possible, et on va avoir tout un type d'invisibilisation de comment ce truc est produit. Donc on va avoir des rapports à la marchandise qui vont être différents. Aujourd'hui, par exemple, avec des boîtes comme Gorillaz, on parle de livraison en moins de 30 minutes pour quasiment gratuit, à peine 10% du prix global, pour des montants de l'ordre de 10, 15, 20 euros, quoi, même pas, où on peut être livré en moins de 30 minutes par des esclaves à vélo, quoi. Et si possible, éco-responsables, hein. Bien sûr, évidemment. Donc, tout ça, ça crée des mondes, ça crée des relations sociales, et ça crée des rapports entre nous, et ça crée des rapports au travail, et ça crée des rapports aux objets. Et puis, comme je le disais avant d'être un peu interrompu, et David va revenir là-dessus aussi, il y a quelques années, on avait, notamment pendant le mouvement sur contre la réforme des retraites et un peu contre la loi travail aussi, on avait dans nos esprits et dans notre mode de bloquer les flux. De
bloquer les flux, ouais, c'était l'objectif
des
assemblées générales.
C'est ça, de bloquer les flux. Ben oui, mais le problème, c'est que dans le capitalisme, on n'a pas de flux sans, on va dire... prolétariat, c'est-à-dire que à force de parler de choses qui nous paraissent immatérielles, un flux, ça paraît immatériel, comme quelque chose qui coule, on oublie que derrière ces flux, il y a des hommes et des femmes qui les entretiennent ou qui les font couler, on pourrait dire. Et si on met pas cette question de classe, comme si vous écoutez les Grégoires assez régulièrement, vous devez savoir que c'est un peu une obsession chez nous, mais si on met pas cette question de classe au centre, ou en tous les cas qu'on la prend pas en compte, bah, de toute façon, on arrive jamais à rien faire et on parlera dans le vent, c'est-à-dire qu'on fera de l'idéalisme en disant oui, on peut bloquer les flux, mais si on va pas voir les gens qui travaillent et si on se met pas en lien et si on n'est pas nous-mêmes avec eux, eh ben, on bloquera rien du tout, quoi. En tous les cas, on pourra éventuellement être pourra entraver vite fait, mais on pourra pas bloquer. Donc, on va écouter la deuxième partie en espérant que ça marche mieux que la première, mais et on reviendra peut-être aussi là-dessus. Camille, s'il te plaît. Yes.
Du coup, d'amener le côté robotisation, nouvelle technologie, ça permet un peu de poursuivre la discussion.
Qui est en lien avec l'évolution aussi des plateformes logistiques.
Cette idée que si on nous dit que les ouvriers ont disparu, c'est aussi parce qu'on nous dit que les technologies, et ça on l'a tous entendu, on nous l'a tous rabâché à l'école, la technologie, le numérique, ça crée plus de savoir-faire, plus de qualifications. C'est censé être comme ça, quoi. Moi, le premier truc de mon enquête, c'était de remarquer immédiatement que c'était pas le cas. En fait, le premier entrepôt dans lequel j'ai bossé, c'était avant même de faire de la sociologie, hein, c'était les boulots d'été que je faisais, quoi. Donc j'étais à la fac en socio, puis on m'expliquait que cette idée-là, hein, plus il y a de technologie, plus il y a de savoir-faire. Et l'été, j'arrive dans un entrepôt, et moi je travaillais sous commande vocale. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a des reportages, Cache Investigation notamment, qui a fait un reportage marquant là-dessus. C'est-à-dire que je suis dans un entrepôt logistique, donc je trimballe des colis, je les mets sur des palettes pour le dire très simplement, avec plein de numériques, des super logiciels qui gèrent toute la circulation des colis. Et les ouvriers, ils ont un casque sur les oreilles, un micro dans la bouche, et c'est une voix numérique qui dit aux ouvriers tous les colis qu'ils doivent aller chercher. Et eux, à chaque fois qu'ils vont chercher un colis, ils valident par reconnaissance vocale. Donc ça crée une espèce de dialogue avec la machine, elle vous dit comment c'est mission, ok, et vous répondez à chaque fois, vous dites 3000 fois ok par jour, comme ça. Quoi. Allez 1, ok, vous allez aller 1, emplacement 33, ok, 3 colis, 1, 2, 3, et à chaque fois on parle comme ça, ok. Donc il y a le côté hyper numérique, avec un algorithme, un logiciel hyper bien calibré qui gère tous les mouvements de colis. Et derrière ça, il y a un boulot ouvrier hyper prolétarisé qui est vraiment qui ressemble au métier d'OS, vous savez, les ouvriers spécialisés de l'automobile, le geste répétitif. On n'a aucune capacité d'agir, aucune autonomie. On suit point par point la commande vocale. On ne sait jamais ce qu'on a avant, on ne sait jamais ce qu'on a après. Ça, c'est toujours important dans le monde du travail. Quand on peut anticiper sur sa tâche ou revenir en arrière, c'est qu'on a un peu d'autonomie. Là, on suit point par point, ok, on valide, et puis on a des quotas de productivité qu'on doit suivre. Donc, je me retrouvais dans un truc hyper moderne. En Allemagne, ils appellent ça de la logistique 4.0. Et ils disent c'est super techno, quoi. Et en fait, derrière ça, il y a des métiers ouvriers qui ressemblent à ceux du début du 20e siècle, quoi, qui sont vraiment des métiers hyper taylorisés. Ça, c'est le mot, pareil, le taylorisme, c'est fini, ça a disparu, quoi. Grâce aux nouvelles technologies. En fait, non, ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Et ça permet de montrer aussi que le monde ouvrier il se transforme et qu'en fait ça disparaît pas. Et l'exemple Amazon, il est très bien pour ça, par exemple. Maintenant, tout le monde est conscient un peu de ce que c'est l'entrepôt Amazon et du fait que les ouvriers dans l'entrepôt, c'est pas cool, quoi. C'est un truc qui s'est diffusé. Essayez de revenir un peu en arrière dans votre mémoire. Au début d'Amazon, en France, l'image qui est diffusée d'Amazon par les médias et l'image qu'Amazon produit, il cherche à produire en permanence et cherche à reproduire aujourd'hui avec d'autres manières, hein, c'est que Amazon, et c'est les mots qui étaient employés même, y compris par des chercheurs, hein, Amazon, c'était du e-commerce, de l'économie numérique. Il y en a qui disaient que c'était de l'économie du savoir. Il y avait cette image-là, quoi. Tout le monde s'est dit à un moment, « Ok, c'est une page Internet, un logiciel, on clique, et ça arrive à la maison. » C'était magique, quoi. Vraiment magique. C'était vraiment impressionnant de voir ça, quoi. Et heureusement, il y a eu des enquêtes journalistiques, il y a eu des grèves dans les entrepôts. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Mais c'était pas le cas, quand même, au départ, quoi. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et ça, c'est important de voir que derrière la vitrine technologique, on a comme ça un monde ouvrier, avec des conditions de travail extrêmement dures, qui peuvent être très différentes, en fait. C'est pas les mêmes exactement chez Amazon que dans les entrepôts que moi j'ai observés. Donc, moi, c'était que des Carrefour, Leclerc, Super U, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on cible beaucoup Amazon parce que, effectivement, chez Amazon, il y a quand même une façon de contrôler les ouvriers, une façon d'utiliser l'algorithme qui est un peu plus perfectionnée qu'ailleurs. Mais Carrefour, c'est commande vocale. Hein. Amazon, il n'y a pas de commande vocale. C'est pas terrible non plus, voire c'est pire. Mais voilà, à chaque fois, il y a contrôle, cadence, il y a des ports de charge très très lourds. Dans la grande distribution, c'est 7-8 tonnes. Dans les fruits et légumes, c'est 10-12 tonnes de produits soulevés par personne et par jour. Donc là, vous pouvez mettre toutes les précautions sécurité sanitaire que vous voulez. Quand quelqu'un qui soulève 10 à 12 tonnes par jour, en fait, son corps lâche au bout de 4 à 5 ans, il commence à avoir plein de problèmes partout. Chez Amazon, ils font 25-30 km par jour, c'est pareil. C'est pas possible pour les genoux de faire 35-30 km dans des allées répétées. C'est pas du sport, hein, c'est des gestes répétitifs. Tout ça, c'est des maladies de l'hyper-sollicitation. On hyper-sollicite des gestes parce que le métier est très taylorisé, on fait tout en même geste. Et ça, c'est partout dans la logistique, dans tous les entrepôts. Bon, déjà, c'est ancien, ça. L'alcool et le cannabis dans le monde ouvrier pour le faire passer le travail, pour lutter contre la monotonie, c'est hyper ancien. Aujourd'hui, l'alcool, c'est vraiment compliqué dans les boîtes. Par contre, le shit, c'est beaucoup plus simple, quoi. De fumer un pétard à la pause, c'est beaucoup plus discret que de boire de la bière. Et effectivement, en entrepôt, quand on a un process de travail comme celui-ci, on est obligé de suivre point par point une machine. En fait, de fumer un joint avant ou pendant le travail, non seulement ça ne dérange pas, mais ça peut aider. Ça peut aider parce qu'il faut surtout pas être proactif quand on est sous commande vocale. Il faut vraiment suivre la machine. Et dès qu'on essaie d'être proactif, c'est-à-dire d'inventer des petits trucs, de se trouver des petits moyens d'aller plus vite ou de chercher à contourner la machine, dès qu'on essaye ça, ça la fait bugger, c'est l'enfer. Le meilleur moyen de bien bosser, c'est de pas réfléchir et de faire ce qu'ils appellent tac tac tac. Donc la formule, c'est tu fumes ton joint et tac tac tac. Et là, c'est bon, quoi. Et ça, c'est un peu triste. Ça veut dire que si tu trouves un moyen de déconnecter ton cerveau, ça sera plus facile de passer ta journée de travail. Et tout ça, en fait, ça génère une représentation de soi. Quand on en est arrivé là dans le travail, soi-même, on a une représentation de soi qui est souvent désignée par les ouvriers eux-mêmes comme le terme de robot. On est devenus des robots. On est des robots. Les cadres aussi disent ça, c'est des robots. C'est triste, quoi. Et ça, c'est à la fois le mot, il est important. Ça permet de désigner la perte de savoir-faire, l'absence d'autonomie. Par contre, il faut s'en méfier un petit peu. Parce que des fois, c'est utilisé par les critiques ou par les chercheurs, par des militants, de façon complètement illusoire en disant « Ah, ces types sont complètement robotisés, lobotomisés. » Et en fait, on a l'impression que les gens deviennent débiles, quoi.
Ouais, alors c'est aussi une résistance à l'intérieur.
Voilà, il y a toute une résistance. Eux, l'enjeu, en fait, pour eux, c'est d'essayer de se démarquer le plus possible de ce repoussoir, cette image super glauque du robot, quoi. Et en fait, des fois, quand on a un problème au travail comme ça, le meilleur moyen de s'en démarquer ou le meilleur moyen de ne pas se faire accuser d'être un robot, c'est de le dire tout de suite. Et moi, en entretien, les gens me disent tout de suite « on est des robots », parce que souvent, ils préfèrent anticiper la formulation plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le formule. Donc, faut un peu se méfier de cette formule. Quand un ouvrier le dit, ça n'a pas le même sens que si nous on dit, de toute façon, vous êtes que des robots. Alors, vous voyez bien, il suffit que moi je prononce que vous êtes que des robots, ça se dit pas, en fait, c'est pas possible. Et dans le quotidien de travail, en fait, c'est un milieu qui est très ouvrier. Donc, il y a beaucoup de blagues. C'est un univers où il y a beaucoup de jeux, où il y a un rapport au patron qui est très dur. C'est vraiment un monde ouvrier où moi j'ai vu plusieurs fois des ouvriers violenter leur supérieur, quoi. Sans se faire licencier forcément après. Parfois c'était une grosse beigne. Donc c'est des mondes ouvriers où il y a encore tout ça aussi, quoi. Pour ça, je vais pas montrer juste le côté glauque, les gens se taisent, il y a plus rien. On est aussi dans du monde ouvrier un peu rude où il y a tout ça, quoi. Donc faut y penser. Puis là, l'autre chose à laquelle il faut penser, donc on sort un peu du sujet strict, mais c'est vraiment important. En fait, c'est super glauque ce truc-là, et y a des gens qui le décrivent, mais le Arthur que tu décris, juste avec son prénom, vous aurez peut-être pu capter un petit peu, quoi. Arthur, c'est pas un nom de gros prolo de 45 ans. Arthur, c'est un étudiant. Et en fait, les étudiants, ils peuvent avoir ce discours-là de c'est vraiment horrible, quoi. Mais en fait, pour des ouvriers qui sont dedans, qui vont y rester un certain temps, Tu peux pas dire je deviens fou, parce que tu deviens pas fou tous les jours pendant 10 ans en restant là, quoi. La condition de rester, c'est d'accepter un petit peu, quoi. Donc ils ont pas le même discours. Et en plus, ceux qui sont vraiment ouvriers, ils savent bien que l'entrepôt c'est dégueulasse, mais en fait, avant l'entrepôt, souvent ils viennent de l'abattoir où ils ont fait un peu de centrale nucléaire. Alors l'abattoir c'est dégueulasse, mais en plus c'est froid, il y a du sang, troubles musculo-squelettiques. Quand ils ont fait du nucléaire, ils ont eu des gros salaires pendant des périodes, mais là il y a le risque de cancer, tout le monde est au courant et ça fait peur. Donc ils font ça 2-3 ans, ils gagnent pas mal d'argent. Puis après ils arrivent dans l'entrepôt et l'entrepôt c'est pas pire qu'ailleurs en fait. C'est le mot qui revient tout le temps, c'est pas pire qu'ailleurs. Donc faut bien comprendre que si eux se révoltent pas d'un coup comme ça, c'est parce que leur champ des possibles, on appelle ça en sociologie, leur univers, il est assez fermé. Ils n'ont pas 15 000 possibilités. Et quand on n'a pas 15 000 possibilités, on ne peut pas se révolter comme ça d'un coup en arrivant dans un entrepôt parce qu'il y a une commande vocale.
Ouais.
Voilà. Je suis un peu sorti du coup, mais voilà. C'est important de comprendre qu'en fait, ces gens-là ne sont pas fous, c'est juste qu'ils n'ont pas 15 000 possibilités pour gagner un salaire. Ouais, bah, du coup, je précise un peu, j'ai déposé des brochures là-dessus. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle la plateforme d'enquête militante et qui a fait des enquêtes militantes sur, donc là c'est plus côté universitaire, c'est vrai, mais qui a fait des enquêtes militantes sur les entrepôts, avec qui on a publié des articles sur les croisements qui s'étaient produits en Ile-de-France entre Gilets jaunes et logistique. Et, du coup c'était assez intéressant, des croisements dans les deux sens, hein, puisqu'en fait ça ressortit dans certaines enquêtes statistiques qui étaient un peu bidon, mais bon, un des profils types du gilet jaune, c'est un peu absurde d'avoir un profil type gilet jaune, hein, mais un des profils types qui est sorti dans certaines enquêtes, c'était l'ouvrier de la logistique. Et de fait, il y a eu beaucoup, enfin, si vous avez participé au mouvement, vous en avez peut-être croisé, mais c'est vraiment des populations ouvrières qui sont beaucoup mobilisées dans le mouvement des gilets jaunes. Et ce qui est assez compréhensible, puisqu'en fait, c'est des populations où il y a peu de syndicats. Dans les entrepôts, c'est très peu syndiqué, parce que c'est éclaté, parce que c'est difficile, hein, de faire du syndicalisme aussi là-dedans, et parce que les syndicalistes qui le font pas toujours bien aussi. Mais qui du coup se défendaient pas, arrivaient pas à se défendre sur leur lieu de travail, et tout d'un coup ils ont eu la possibilité de se défendre autre part que sur le lieu de travail, les samedis, dans les manifs. Ça a ouvert un champ des possibles énorme du point de vue de leur lutte et de leur subjectivité à eux, de penser comme révolutionnaire tout d'un coup le samedi dans la rue parce qu'on n'y arrive pas dans sa boîte. Pour eux c'était très fort. Et puis il y a le sens inverse aussi, en fait, le mouvement des gilets jaunes, mais déjà avant, hein, le mouvement loi travail, il y avait déjà beaucoup ça. On commençait à prendre la logistique comme un outil de lutte. Depuis 2016, il y a quand même ce truc qui s'est un peu répandu partout, cette idée que je vous disais tout à l'heure, hein, que si on veut bloquer l'économie, c'est pas à la sortie de l'usine Renault que ça va se passer. Bien souvent, c'est sur des zones logistiques. Enfin, ça a beaucoup essaimé dans tout le militantisme français, depuis aussi le comité invisible qui avait déjà commencé à formuler ces choses-là, bon, sans jamais parler des ouvriers qu'il y avait dans les entrepôts, ce qui était un problème à mon avis, mais avec déjà cette idée-là de blocage des flux. Qui a vraiment assez aimé, donc il y a des choses qui ont beaucoup bougé. Par contre, sur ce qu'on peut faire, puis après, bon, on va en discuter ensemble, mais il y a quand même deux choses différentes. Il y a ce qui peut être fait dans l'entrepôt, ou auprès de l'entrepôt, en soutien des ouvriers de la logistique, et ce qui peut être fait contre la logistique au global, quoi, ou contre des boîtes comme Amazon. Et là, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a des croisements possibles, hein, mais c'est pas exactement la même chose. Ce qui a beaucoup été fait en Ile-de-France avec les Gilets jaunes, c'est du soutien des luttes dans la logistique, et notamment auprès d'un entrepôt de Géodis, qui en plus c'est une filiale de la SNCF, donc c'était un peu le côté public, ça renvoyait à plein de thématiques Gilets jaunes, vraiment, quoi. Le secteur public qui crée des filiales privatisées, qui font d'énormes bénéfices. Quand on nous dit que la SNCF a plus d'argent, en fait l'argent il est dans ces trucs-là, hein, dans Géodis, et qui, où en plus les conditions de travail sont dégueulasses. Et ça, pour les Gilets jaunes, c'était super intéressant de rencontrer ces ouvriers de la logistique, qui eux ont été véreux, hein. C'était des gens qui dès le départ ont été les samedis en manif, c'est des CGTistes pour la plupart, hein, mais de la partie des CGTistes qui ont été dès le début présents dans le mouvement et qui ensuite ont été dans les AG et qui au bout d'un moment commencé à dire, mais en fait si vous voulez bloquer des trucs, bah nous on a les horaires, on sait où ça passe, voilà, on connaît le truc, faut qu'on en discute ensemble, quoi. Puis il y avait toute une culture du barbecue, de la palette et du feu, il y a des choses qui croisaient bien, quoi, et qui ça matchait très correctement. Et il y a plein de choses intéressantes qui se sont produites, qui seraient à alimenter, à mon avis, quoi. D'essayer d'aller vers ces gens-là, de regarder ce qui se passe dans les entrepôts. Par contre, c'est un peu autre chose de faire ça que de chercher à empêcher l'installation d'un entrepôt Amazon. Même si, j'ai bien dit, les deux peuvent se croiser, quoi. C'est un peu une autre dynamique. Empêcher l'implantation d'un entrepôt Amazon, je pense que c'est hyper intéressant. C'est d'autres outils de lutte. Mais là où c'est intéressant, c'est que le risque avec la logistique, comme dans plein d'autres domaines, hein, c'est de se mettre à défendre des luttes ouvrières. Ça, c'est super important à mon avis, hein. Mais on a le droit aussi d'attaquer le modèle global, quoi. De dire, En fait, ce truc est dégueulasse. Hein. Et c'est pas de dire que les ouvriers dedans sont dégueulasses aussi, mais le truc dans lequel ils sont est dégueulasse. On a le droit de l'attaquer au global. Et d'empêcher l'arrivée d'un entrepôt Amazon, ça permet ça, par exemple. C'est vachement intéressant. Ça permet de dire le travail que ça va créer, c'est dégueulasse, mais aussi ça va utiliser des terres. Donc c'est même pas qu'on va attendre qu'il arrive pour dire ah, c'est pas bien les conditions de travail. C'est que non, en fait, on n'en veut pas. C'est un refus global. Et ça permet ça aussi. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est un peu nouveau, par contre. C'est des trucs à développer et à essayer, en s'inspirant sûrement de la lutte, de toutes les luttes contre les grands projets inutiles, de l'occupation des terres et des ZAD, et de tout ça. Hein. Mais ça, il y avait vraiment des choses à construire dans ce domaine-là. C'est très ouvert et il y a plein de choses à faire.
Alors, il nous reste une toute dernière partie, donc je vais vraiment être très rapide pour qu'on puisse l'entendre. De toute façon, vous pourrez réécouter tout ça sur le site de l'Egrégor. Je crois que ce qui est fondamental dans ce que dit David, au-delà de la description qu'il fait de manière très pédagogique, c'est vraiment de la centralité du travail et de la classe. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a des travailleurs et quelque part, dans les dénonciations qu'on peut avoir, qui sont des dénonciations qui sont aussi produites par, on va dire, l'idéologie dominante. Hein, il l'a assez bien dit. Hein, aujourd'hui, on a parlé de capitalisme immatériel. C'est aussi une dénonciation qui correspond à une certaine partie de la société qui voudrait avoir, elle, d'autres formes de consommation ou des consommations plus éthiques. Or, l'important et vraiment le fondement de tout ça, c'est de regarder comment se fait l'exploitation et comment on peut agir dessus, et on ne peut agir sur la production et sur les méthodes de production qu'avec ceux qui produisent, et donc avec les travailleurs. Donc redonner à chaque fois, dans les problèmes tels qu'on les considère, la nature et la question de la classe. Donc je me tais et on écoute la dernière partie.
En fait, il y a un énorme marché de l'immobilier logistique qui s'est créé, quoi. C'est aussi un marché immobilier qui est... En fait, ils construisent en surface de zone logistique. Il y a autant de surface de zone logistique que de surface de bureaux qui sont construites en France. Donc c'est énorme, en fait. Et les bureaux, en plus, c'est sur des étages, là, c'est tout plat. C'est des volumes énormes. Donc il y a tout un marché énorme avec des énormes promoteurs. Et là, c'est un promoteur qui achète le terrain sans dire ce que c'est au départ, quoi. Les élus locaux disent qu'ils savent pas ce que c'est. Enfin, ils ont longtemps dit qu'ils savaient pas ce que c'est. Mmh. Ce que c'était. Je pense qu'ils l'ont su à un moment, mais en fait, ils l'ont pas su au départ. Ça, c'est vrai. Hein. Au départ, dans la négociation, le promoteur impose de pas dire qui c'est, ou alors ils disent qu'ils savent pas qui ça va être. Et en fait, le premier signal, c'était que vu la surface, 160 000 m², c'est énorme. C'était à peu près sûr que c'était Amazon. Mais au départ, les élus locaux eux-mêmes, c'est possible, ne le savaient pas. Hein. Donc, c'est vraiment géré par des promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, ils montent des zones industrielles, des zones logistiques partout comme ça en France. Ils en laissent à l'abandon, ils en reconstruisent d'autres, ils se déplacent. Parce qu'en fait, c'est très mobile en plus. Un entrepôt, c'est pas comme une usine, hein. Il suffit de le démonter, de le remonter. Il n'y a presque pas d'infrastructure, c'est pas très lourd, c'est pas des machines. Ça bouge beaucoup. Et quand ça bouge, ils abandonnent, ils reconstruisent, ils abandonnent, et donc ils en laissent partout en friche. Et il y a tout un marché autour de ça, quoi. Depuis le début du monde industriel, il y a toujours un Rambo qui va remplacer l'ouvrier. Il a toujours existé depuis un des premiers philosophes du monde industriel, en 1830. C'est un mec qui était à la fois philosophe, puis il avait plein de business dans les manufactures de tissus. Et lui, il avait tout un discours, il disait « Vous verrez bientôt, la plus parfaite de mes manufactures sera celle où on se passera du travail des mains. » C'était en 1830. À l'époque, il y avait une mortalité incroyable dans l'industrie textile. Le mec, il n'avait pas honte de dire ça. En fait, ce discours, il a toujours existé. Il a toujours existé. Et quand on regarde ce qui se passe historiquement, hein, depuis le début de la révolution industrielle, à chaque fois, on a des nouvelles technologies qui vont faire augmenter la productivité. Et très rarement, on a un métier qui disparaît. En fait, on a des métiers qui se transforment, qui explosent, qui sont répartis en plusieurs tâches. Parfois, il y en a un qui va se retrouver à faire une tâche toute simple, hyper simple. On a un métier complexe au départ, puis tout d'un coup, des tâches très simples qui sont divisées. Puis ces tâches vont se rediviser, se rééclater. En fait, on a une vision un peu mythique de la technologie qui arriverait et qui remplacerait quelqu'un. Et ça ne se produit presque jamais. Et non seulement au global, vous savez, le truc des destructions créatrices, ça c'est dans l'économie au global, ça veut dire que la technologie, ça fait disparaître des emplois et ça en crée d'autres, mais au local, vraiment dans un lieu de travail, ça ne se passe pas comme ça ou très rarement. En fait, on intensifie le travail, on l'accélère, peut-être qu'on va avoir le même entrepôt qui fonctionne avec 200 personnes, avec plein de technologies, c'est ce qui se passe chez Amazon, il va se retrouver à fonctionner avec 150 personnes, mais en fait l'entrepôt avec 0 personne, il existe très peu. Il y en a déjà un petit peu. En fait, il y a quelques entrepôts qui sont très automatisés, pas entièrement, mais très automatisés en France. Ça fait 15 ans qu'on nous en parle, qu'on nous dit que ça va tout remplacer. Pour l'instant, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. C'est sur des produits très spécifiques, ça coûte très cher. Ça coûte très cher dans la grande distribution. D'investir des très grosses sommes, c'est même plus possible aujourd'hui. C'est un truc entièrement financiarisé. Donc les investissements, il faut qu'ils soient remboursés en 2-3 ans. Ce qui n'est pas possible sur un matériau comme ça. En plus, ils sont pas mobiles, ces entrepôts qu'on ne peut plus bouger. Et de pouvoir bouger ces entrepôts, c'est vachement utile. Aujourd'hui, quand il y a une variation du prix du pétrole, Carrefour, ils remoulinent leur logiciel pour savoir où est le meilleur endroit pour leurs entrepôts. Ils abandonnent les anciens, donc ça fait des friches, ils en reconstruisent d'autres, 10-15 km à côté, parce que ça coûte moins cher en essence pour livrer les magasins. Vous voyez le truc, ils utilisent la mobilité des entrepôts pour que ça leur coûte moins cher. D'imaginer une infrastructure logistique qui serait entièrement automatisée, c'est un truc énorme qui va peut-être arriver, pas d'un coup, dans très longtemps. Donc, et pourtant, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et c'est là que ça produit déjà des effets, si vous tapez sur Google logistique, vous allez tout de suite tomber sur les 5 entrepôts dont je vous parle. On les voit partout dans les médias, sur la minute technologie de BFM TV, on en parle tout le temps. C'est un truc qui revient toujours. Donc moi je trouve que c'est important de considérer, surtout que moi je ne connais pas l'avenir, et puis que je crois que l'avenir il dépend aussi de la lutte des classes, je suis un peu matérialiste sur les bords, mais je crois qu'on a un impact, pour le dire plus sérieusement, on a un impact nous sur notre avenir, donc j'ai pas envie de prophétiser un avenir qui serait comme ça parce que je le trouve pas terrible, et en plus c'est pas sûr du tout, et ça risque d'être très long. Mais par contre c'est un impact parce qu'en fait, on fait croire aux gens que tout ça a déjà disparu, donc pour nous ça serait de dire oui mais c'est pas la peine de s'en inquiéter, ça va disparaître quoi. Et en plus, et ça c'est encore plus grave de mon point de vue, enfin parce que je l'observe, mais on fait croire à ces ouvriers-là qu'ils vont disparaître. On leur dit tout le temps ça maintenant, tout le temps. Les caissières, à chaque rendez-vous annuel, on leur rappelle, la caisse automatique, vous savez, il faudrait peut-être faire attention de ne pas trop râler au travail quand même. Donc ça, ça a déjà un impact énorme, ce discours-là, donc il faut vraiment se méfier. C'est important de regarder, ça va créer plein de choses, les machines et l'augmentation de la mécanisation du travail. Mais de parler automatisation, intelligence artificielle un peu trop vite, c'est des chimères en fait. C'est des chimères. Moi, la commande vocale, le truc qui parle OK 1-2 là, ils appellent ça de l'intelligence artificielle. Hein. C'est ça aujourd'hui dans le monde ouvrier, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est des trucs de ce style-là. C'est pas incroyable, c'est pas des trucs qui volent. Et voilà quoi. Et Amazon, c'est ça, ils font tout le temps ça. Quand ils ramènent l'histoire des drones, quand ils ramènent l'histoire du Zeppelin, tous ces trucs-là, ça sert à invisibiliser le fait qu'Amazon, ça repose sur l'exploitation massive de main-d'œuvre ouvrière dans des énormes entrepôts. Que c'est extrêmement matériel, tu parles de dématérialisation, ça prend plein d'espace agricole, ça prend plein de place, ça fait des camions, c'est dégueulasse quoi. Et eux, ils ont une entreprise de communication énorme pour essayer tout le temps d'effacer ça, en permanence quoi. Et ça, le problème, c'est que c'est repris des fois par les critiques aussi. Quand j'ai vu sur les articles sur l'entrepôt lyonnais, il y avait, alors, je sais plus, quelqu'un d'une collectivité locale, un élu, je crois, hein, qui disait, mais non, en plus, lui, il était dans la critique d'Amazon, hein, il disait, mais en fait, c'est n'importe quoi, ils racontent qu'ils vont créer 1700 emplois, mais leurs entrepôts, ils vont bientôt être automatisés. Grosse erreur de critique, c'est pas un bon appui pour la critique de dire ça, c'est une bêtise, c'est reprendre leur discours en essayant d'en faire une critique, ça, je crois que ça marche pas, faut s'en méfier un peu. Mais en tout cas, eux, ils vont tout le temps essayer de renouveler ce discours-là. Et ce discours-là, il est omniprésent depuis le début de la révolution industrielle, depuis le début du capitalisme. C'est un discours qui permet de renouveler l'idéal du capitalisme. Un des idéals du capitalisme, ce serait de le faire disparaître grâce au progrès, la pénibilité, les gestes répétitifs. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Et les gens qui prédisent que ça va arriver, après j'arrête, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous parlent de disruption. Vous avez peut-être entendu ce mot-là, on est dans une phase disruptive. En fait, ils nous essayent de nous faire croire que l'histoire, c'est un cycle continu. Hein. Y a pas de... Là, ça va, là, promis, ça va s'arrêter d'un coup et ça va changer. Vous êtes libre d'y croire, c'est une hypothèse hyper risquée sur l'avenir.
vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!